Merci infiniment de ce résumé d'une longue carrière, comme vous disiez, qui m'a conduit, comme vous savez, des prémices de la traduction juridique à la jurilinguistique, en fait. Puisque vous le savez, je suis parti de la traduction juridique pour en arriver à une réflexion jurilinguistique, et je prétends que c'est la jurilinguistique est la fille de la traduction juridique dans notre contexte canadien. Je vais faire un plan, comme vous voyez, assez détaillé. En cette partie, il y a des parties qui seront plus courtes que d'autres, parce que je n'aurai pas le temps de développer chacune d'entre elles. En bon universitaire, habitué au colloque, comme vous savez, j'ai écrit un long texte dont j'ai extrait un résumé du résumé que je vais essayer de vous résumer cet après-midi dans ces 7 parties. Et évidemment, ce matin, Olivier Moreto et d'autres collègues ont dit beaucoup de choses pertinentes pour un traducteur, pour un jurilinguiste. Beaucoup de termes ont été employés qui sont tout à fait pertinents, que vous allez retrouver dans les 7 principe que je présente ici. Je me suis inspiré non seulement des 7 piliers de la sagesse que vous connaissez tous, Laurence d'Arabie, et surtout d'un texte qui a été produit par Edgar Morin sur les 7 savoirs nécessaires contemporains. Il est dans le site de l'UNESCO, vous pouvez l'y retrouver depuis déjà une bonne quinzaine d'années, et je pense qu'il s'applique tout à fait aux jurilinguistes aussi, ou aux traducteurs, ou à toutes sortes de langagiers, puisque nous sommes des langagiers essentiellement. Ne soyez pas trop choqués par les 7 principes en question, ça demanderait beaucoup d'explications pour élaborer chacun d'entre eux, mais quand je dis la langue de départ possédera, la langue d'arrivée maîtrisera, vous voyez la nuance que je veux faire. Généraliste sera, car au service de la langue agira, quoiqu'à l'empire du droit te soumettra. Évidemment, on doit se soumettre au droit, mais on représente la langue dans son ensemble, avec tout le culturel que cela représente derrière. Le texte et l'intention de l'auteur respectera, mais ta culture exprimera. En traduction, et en traduction juridique particulièrement, vous le savez, on doit exprimer sa culture. J'aurai quelques exemples, j'en ai beaucoup plus dans le texte écrit, je n'ai pas le temps de tous les présenter. Mais, grosso modo, je vais vous en présenter quelques-uns. Les systèmes juridiques de départ et d'arrivée maîtrisera, cela va de soi. Olivier Moreto en a parlé ce matin et d'autres comparatistes. Je n'insisterai pas trop là-dessus, ce qui va de soi. Les langages du droit des textes de départ et d'arrivée possédera, car ce sont des langages propres. En ce qui nous concerne, la common law ne s'exprime pas de la même manière que le droit civiliste. Et la lettre du texte observera, mais de le rendre dans l'esprit t'efforcera. C'est tout le dilemme du traducteur, c'est le nœud gordien de la traduction juridique particulièrement, mais aussi du rédacteur des lois, du légiste. On doit respecter la lettre d'une certaine manière, mais la rendre dans l'esprit, ce qui n'est pas facile. Vous vous en doutez. Et enfin, sur le métier, ton ouvrage 20 fois remettra, vous reconnaissez Boileau et son principe. Je ne vous invite pas à faire 20 révisions de vos travaux, de vos textes. Une fois ou deux, bien faites, devrait suffire. Mais néanmoins, c'est important, vous le savez. Alors, on va procéder assez rapidement, vu le temps limité qui est le nôtre. Quand je dis la manière de rédiger les lois et les autres textes porteurs de règles juridiques a toujours préoccupé le monde des juristes. On peut remonter à Platon, on peut remonter à Aristote, on peut remonter à Cicéron, bien évidemment. Tous ont les mêmes préoccupations, arriver à rendre le texte juridique, le texte de droit, lisible pour un destinataire, n'est-ce pas? Et chaque peuple, malheureusement, a élaboré des techniques et des façons de rédiger ces textes. Donc il y a des traditions d'écriture et de présentation des textes qui diffèrent d'une langue et d'une famille juridique à l'autre. Je m'inspire des travaux de Jack Goody, que vous connaissez bien, anthropologue, ethnologue, linguiste distingué, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Aussi, lorsque on met l'accent sur la clarté, la concision et la précision du message, qui sont les 3 principes cardinaux de tout rédacteur qui se respectent, on devrait arriver à rendre un texte à la hauteur des attentes, quelles que soient les attentes. Mais le plus souvent, dans le même texte, on trouve lourdeur, maladresse, verbiage, qui se conjuguent au détriment, évidemment, du justiciable, du citoyen, de l'usager, et je prétends même de la société tout entière. D'où l'intérêt et la nécessité de ce que nous appelons maintenant, depuis quelques décennies, la jurilinguistique, hein, qui est une discipline à la croisée du droit et de la linguistique. Nous savons tous cela. Si la solution d'un problème se trouve rarement dans les limites d'une seule discipline, le droit ne fait pas exception à cette règle. La linguistique peut lui servir d'appoint pour se lancer dans cette écriture du droit, nous dit Badinter, qui est un exercice impitoyable pour le juriste. Et c'est Robert Badinter, vous savez, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, qui le dit, donc c'est quand même une autorité intéressante pour nous. Si écrire n'est pas un acte naturel, parler est naturel. Nous apprenons tous le langage dans le sein maternel, mais nous n'apprenons pas à écrire. C'est un apprentissage qui peut durer toute une vie. Donc rédiger un texte aussi spécialisé que peut l'être une loi ou un jugement ne va pas de soi, malheureusement. Donc la formation de jurilinguistes qui soient aptes à traiter des textes juridiques en milieu de bilinguisme et de bijuridisme comme au Canada pose des difficultés particulières que vous connaissez bien. L'histoire, et depuis la conquête, on peut commencer à 1759, mais pour faire juste mesure, 1760, nous enseigne que la jurilinguistique canadienne est la fille de la traduction, comme je disais il y a un instant. Car des générations de traducteurs se sont penchées sur les problèmes, les difficultés que pose ce transfert du droit d'un texte dit de départ dans un texte dit d'arrivée. Hein. Et ces traducteurs, on l'a souvent méconnu, ont avancé des solutions, des principes, des méthodes de traduction qui visent à défendre et à illustrer aussi les langues et les cultures en jeu. Et je soutiens, c'est ma thèse, je sais qu'elle n'est pas la seule, on verra pourquoi, qu'au Canada, la jurilinguistique procède directement de la traduction et cela depuis les origines. Aussi, ces considérations en sept principes cardinaux, qui ne concernent qu'un volet de la jurilinguistique, sur les 12 qu'elle comprend, et ces 12 sont celles que Gérard Snow et Madame Doiron ont élaborées dans leur bibliographie. 12 volets de la jurilinguistique, c'est énorme. Quand on considère qu'au départ, il n'y en avait que 2 ou 3, on en est rendu à 12. Et ce que je vais dire porte essentiellement sur le volet qui a contribué à la naissance de cette discipline au fil des décennies. Ces 7 savoirs sont évidemment ceux que l'on attend de tout traducteur, mais plus particulièrement d'un traducteur qui sera appelé à travailler sur des textes juridiques, donc un jurilinguiste si vous voulez. Et le carquois de ce traducteur doit contenir autant de flèches linguistiques que de flèches juridiques. Et la première, c'est celle des langues. Langue de départ, langue d'arrivée. Si on dit la langue de départ possédera, la langue d'arrivée maîtrisera, on possède la première, mais on doit maîtriser la seconde parce qu'on rédige dans sa langue. C'est la langue maternelle. On traduit en général vers sa langue. Donc c'est la langue que l'on doit maîtriser. Et on peut s'étonner d'ailleurs de trouver cette langue, qui est censée être une langue maternelle, au nombre des problèmes qui se posent aux traducteurs jurilinguistes, puisqu'il s'agit généralement, en général, de la langue maternelle. Mais beaucoup d'entre vous, beaucoup de Canadiens sont bilingues et parfois ont du mal à démêler le maternel du paternel. Hein. Les enseignants se plaignent du fait que leurs étudiants ne maîtrisent pas ou qu'ils possèdent mal leur langue. C'est un phénomène universel. On le connaît en espagnol, on le connaît en allemand, on le connaît en italien, on le connaît dans toutes les langues, en russe aussi. Le français et l'anglais ne sont pas épargnés. Or, écrire, c'est la fonction première du traducteur. Lire et bien comprendre la langue de départ doit suffire normalement pour un traducteur. C'est une activité passive, la lecture. Alors que, contrairement à celle de l'interprète, qui traduit l'interprète en cabine, il fait intervenir une activité active. Hein. C'est une traduction qui est active. Il parle, n'est-ce pas ? Alors nous lisons, nous devons comprendre le traducteur. C'est pour ça qu'un traducteur n'a pas à être un polyglotte. Il peut lire, et j'en lis quelques-unes, vous le savez, langues, et les traduire, bien sûr, sans avoir à les parler nécessairement. À les parler très bien, d'ailleurs, on peut les bredouiller, comme c'est mon cas pour pas mal de langues, mais il faut les comprendre au départ. L'écrit repose sur un apprentissage qui est bien plus complexe, est beaucoup plus poussé que celui de l'oral, qui requiert la maîtrise, entre autres, la liste n'est pas exhaustive, de la syntaxe, de la grammaire, on fait la différence, de la stylistique de la langue, et pour cela, pour parvenir à la lisibilité souhaitable. Voici quelques preuves pour ce qui est de la langue d'arrivée. Pour être lisible ou stylistiquement adapté au sujet, le texte doit être grammaticalement correct, c'est-à-dire conforme aux règles courantes de la grammaire et au bon usage, disons en général. Par exemple, on entend très souvent des phrases telles que celle-ci dans un restaurant. Je l'ai entendu il y a quelque temps, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Le serveur lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait boire, qu'est-ce qu'elle voulait prendre comme boisson, au lieu de lui demander ce qu'elle voulait prendre. C'est passé dans l'écrit, tout le monde le dit. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit s'exprimer par écrit, vous le savez bien. Un exemple plus sophistiqué de rédaction courante, qui n'est pas forcément dans le bon usage, un exemple que j'utilise depuis des années avec mes étudiants. Il se mettrait en route si le ciel était clair et que la température était douce. On dira cela peut-être de façon courante. Dans une langue soignée, grammaticalement correcte, on devrait dire « Il se mettrait en route si le ciel était clair et que la température soit douce ». Parce qu'il y a une condition, et elle régit le subjonctif. Mais ce n'est pas fini. En français soutenu, pour ne pas dire recherché, on dirait « et que la température fut douce, car il y a concordance des temps ». Vous voyez jusqu'où on peut aller. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on peut aller. C'est des exemples qui soulignent l'écart entre la théorie et la pratique, entre un principe et son application. Si on passe du langage courant ou familier à un langage soigné, cela demande un effort. La tentation est grande de céder à la facilité quand on parle et quand on écrit aussi. Par exemple, pourquoi se compliquer la vie quand on peut dire tout simplement « le directeur a engueulé son assistant ». Hein ? Le verbe « engueuler » est couramment employé dans la langue contemporaine, mais on oublie qu'on a beaucoup de synonymes à notre disposition selon le niveau de langue requis par la situation du texte, par sa destination, hein, du plus au moins familier. Regardez, bon, on n'a pas le temps de tous les passer, bien sûr, mais dans Guirlandais à Admonesté, vous voyez la progression qu'il peut y avoir, gronder, rabouer, reprendre, primander, sermonner, houspiller, semoncer, tenser, chapitrer, gourmander, m'originer, admonesté. Cela me fait penser que Danica Sedeskovitch, qui est une grande traductologue, l'école de Paris, l'école du sens, avait relevé chez un traducteur juridique canadien, 66 façons de rendre en français le mot pattern, hein, un pattern. 66 façons différentes, vous voyez. Donc la langue française est riche aussi. Pour en finir avec cette question, un dernier exemple, une formulation qui exprime un point de vue qui part du niveau familier jusqu'au soutenu. Quand on dit question finance, c'est familier, c'est même incorrect. Bon, au niveau des finances, c'est commun, un peu négligé. Au point de vue financier, c'est du langage courant, on le dira couramment. Du côté financier, c'est un peu plus soigné. Mais s'agissant des finances, on est dans le langage soutenu. Alors vous voyez, le rédacteur a le choix entre question finance et mettons s'agissant des finances pour exprimer ce qu'il a à dire selon le contexte. Alors, le fait que l'ingénieur, le médecin ou l'avocat aujourd'hui possèdent moins bien leur langue que ceux d'hier, c'est le reproche que l'on fait à la société, c'est peut-être moins grave, et je mets « quoique », parce qu'on peut aller très loin de ce côté-là, que de constater cette lacune chez les professionnels de la langue que nous sommes, les langagiers, hein, et les traducteurs et les jurilinguistes, bien entendu. Alors, renforcer cette compétence de rédaction chez le traducteur jurilinguiste est nécessaire, mais en l'adaptant aux besoins particuliers du jurilinguiste, selon les niveaux et les besoins de la communication juridique, le secteur privé par rapport au secteur public, évidemment, la loi, le jugement, l'acte, etc., selon le contexte. La langue de départ, pour le traducteur au moins, c'est généralement une langue passive, et également pour le traducteur jurilinguiste. Les faiblesses que l'on relève sont dues à une méconnaissance de la syntaxe et de la grammaire de la langue, pour ne rien dire du lexique. Pour l'anglais, par exemple, on ne peut pas ignorer les nuances temporelles précises que l'on trouve dans les mots « for, since, and ago ». Et en outre, selon le contexte, elles peuvent être, vous le savez, soit conjonction, soit préposition, « for et since », ou un adverbe, « ago et since ». La traduction en français des temps du passé qui les accompagne, le « present perfect » ou le « preterite », On connaît les subtilités, les difficultés du maniement de ces langues. Beaucoup de linguistes se sont penchés là-dessus. On sait tous depuis longtemps, et Dridger l'a dit bien des fois, il n'a pas toujours été entendu, que Charles n'est pas un futur dans nos lois, n'est-ce pas? C'est l'obligation. La connaissance d'une autre langue n'enrichit pas que le vocabulaire de celui ou de celle qui la possède. L'accès à une culture, à des manières de dire, de penser, de faire, différentes, évidemment, nourrit notre esprit. Le traducteur jurilinguiste exprimera d'autant mieux dans le texte d'arrivée, normalement rédigé dans sa langue, les nuances du texte de départ, qu'il les possédera en équivalence dans sa langue sur tous les plans, syntaxique, lexical, stylistique et, finalement, idiomatique. C'est ça la rédaction, c'est l'idiomaticité. Ce sont des connaissances qui seront mises à profit lorsque le traducteur jurilinguiste ou jurilinguiste traducteur, on peut balancer les termes à l'infini, aura affaire au texte juridique et qu'il devra alors à la fois défendre sa langue, donc sa culture, et illustrer le droit. Et si on a une double fonction en étant généraliste au service de la langue, mais juriste puisqu'on se soumet à l'empire du droit, cela montre la complexité de la tâche du traducteur jurilinguiste qui est portée à son paroxysme dans notre contexte canadien, bien sûr. Car tout arrive à s'entrecroiser et parfois même à s'entrechoquer. Regardez cet exemple que j'ai pris pour vous montrer jusqu'où peut aller la comparaison des langues et de cultures. Dans la règle 144 du règlement de procédure et de preuve de la CPI, les copies de toutes les décisions sont fournies à l'accusé dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement. L'anglais dit « fully ». Eh bien, l'accusé dans cette cause, et ce n'était pas n'importe quel accusé, c'était un génocide, prétend que les deux adverbes ne sont pas identiques, ne sont pas équivalents. Mais la cour d'appel a tranché en disant « dans les deux cultures, il y a des façons de s'exprimer différentes, les deux termes sont équivalents ». Vous voyez, la cour d'appel internationale. On peut en parler longtemps, mais c'est un exemple pour vous montrer jusqu'où la culture peut aller. La perfection n'est pas de ce monde. Pour une culture, dans l'autre, elle peut l'être. Le fond du problème met en évidence le sens qui est porté par le texte, les mots, le contexte, et surtout l'interprétation que l'on peut faire de l'intention de son auteur. Vous savez ça en tant qu'interprète des lois. Or, ce sens et son interprétation dépendent d'un facteur culturel qui est incontournable. Et ce texte, le texte, quel qu'il soit, et l'intention de l'auteur, respectera, mais ta culture exprimera. Troisièmement, il va sans dire que le jurilinguiste, qui est un traducteur, entre autres, doit respecter le texte, ce que le texte est censé dire, et l'intention de son auteur, qui peut être un collectif, le fameux législateur, ou un simple rédacteur unique, le juge, par exemple. La tâche principale de l'interprète des lois, c'est de trouver l'intention du législateur. Mais c'est également celle du traducteur, qui est interprète du texte de départ, qui doit en appréhender le sens pour le réexprimer dans le texte d'arrivée, qui est une tâche, vous le savez, qui n'est en rien facile ni simple. Donc, je parlerai un tout petit peu brièvement de la culture et de son expression, parce qu'elle pose de multiples difficultés au traducteur, tant le lien entre la langue et la culture est étroit. Par ailleurs, la culture du traducteur jurilinguiste, ce qu'on appelle sa culture générale, pose nombre de problèmes. Quand on connaît l'importance des faits culturels, dans l'exemple du règlement que je viens de vous faire voir de la CPI, on sait toute la charge notionnelle et historique d'un terme tel que les droits de l'homme, par exemple. C'est une philosophie socio-politico-juridico-culturelle européenne qui n'est pas la même que celle de l'Angleterre et du Royaume-Uni et des Dominions, des anciennes Dominions, comme vous savez, avec l'équivalent Human Rights dans le dictionnaire de Reed, entre autres. Deux cultures philosophico-juridiques se font face et même s'affrontent, notamment à l'échelle internationale. Donc on doit être particulièrement attentif et prudent lorsque la culture d'une société affleure dans son droit, mais sous le couvert de la langue, on n'en est pas toujours conscient malheureusement. Le savoir-faire des mots ne saurait suffire à faire d'un honnête professionnel un traducteur jurilinguiste. Il faut aussi une solide culture générale, vous le savez. Et la teneur d'un texte peut faire débat. Certains vont le qualifier de technique. On a parlé tout à l'heure de langue spécialisée par rapport à langue de spécialité. Il y a une nuance. Il y a une nuance entre texte juridique et texte de droit. Il y a une nuance. que l'on fait. D'autres y verront un simple texte scientifique ou un texte spécialisé. Or, un même texte peut porter tout cela à la fois, selon que l'on aura affaire à un profane, un praticien ou un théoricien du domaine. Je reprends la qualification de Van der Linden, Jacques Van der Linden, que vous connaissez bien, qui a décomposé le lecteur en quatre catégories principales. Je retiens les trois principales que sont celles-ci. Le jurilinguiste traducteur doit pouvoir lire ce texte à ces trois niveaux, vous voyez, et les distinguer clairement dans sa tête. Une vérité qui doit le guider dans sa formation. La tâche donc du traducteur jurilinguiste fait désormais appel à une somme de connaissances qui dépasse le cadre de chacun des grands domaines, des deux grands domaines de l'activité humaine, l'effet de nature et l'effet de culture. Les systèmes juridiques de départ et d'arrivée maîtrisera, cela va de soi, les circonstances et l'histoire ont fait du Québec et du droit au Québec particulièrement un cas intéressant pour nous les traducteurs et les jurilinguistes. Le savoir du comparatiste est nécessaire aux traducteurs jurilinguistes canadiens. Olivier Moreto l'a souligné abondamment ce matin. Cette opération traduisante revient, vous le savez, à accomplir un acte comparatif. On fait du droit comparé lorsque l'on traduit des textes juridiques. Prenez le terme propriété, on en a parlé dans l'atelier ce matin encore. Prenez le mot bien et vous voyez tout ce que cela recouvre, les nuances, les difficultés, les définitions dans chacun des systèmes de ces termes-là. Les langues du droit des textes de départ et d'arrivée possédera. Le droit, dans la lettre comme dans l'esprit, ne s'exprime pas de la même manière, n'est pas exprimé de la même manière d'une langue à une autre, ni d'un système juridique à un autre. C'est une question de culture, de tradition, d'écriture, et je prétends donc de style. Le common lawyer ne rédige pas de la même manière que son homologue civiliste, la loi, le jugement ou le contrat. Michael Edwards, qui est un essayiste et un grand spécialiste des littératures françaises, c'est un anglais, qui nous dit « à passer d'un événement à l'autre, alors que la syntaxe française plane un peu au-dessus de l'événement, et le dit avec un début, un milieu et une fin. » Et ce schéma, on le retrouve notamment dans les textes législatifs. Donc il y a une différence de style, de rédaction, et cette grande différence, on la trouve chez les common lawyers, on met l'accent sur le détail. Il y a profusion, vous le savez, dans les contrats notamment. Et dans la tradition civiliste, l'accent est mis sur le principe, la concision. Ce qui nous donne, par exemple, le paragraphe 2 de l'article 6 du Code criminel, « Subject to this act or any other act of Parliament, no person shall be convicted or » et on voit tout de suite la manière dont est rédigée la disposition. Et on trouve des résultats étonnants, 140 mots sans point ni point virgule dans le Partnership Act de 1890, mais ce n'est pas un record, j'en ai relevé 246 dans le Conditional Sales Act de 1955, il y a mieux, mais je ne veux pas faire des folies avec les mots et dénigrer un texte en particulier. C'est une manière de rédiger dont il faut prendre conscience et qu'il faut accepter. Ce n'est ni plus mauvais ni meilleur que l'autre manière de rédiger. Mais c'est surtout dans les contrats que l'on trouve la plus grande différence, comme vous savez, entre les deux systèmes de rédaction. Regardez dans cette clause, on est frappé par 8 verbes en cascade. Hein. « Employee shall not own, manage, operate, control, be employed by, be an officer of, participate in, be connected with. » Vous voyez, on ne peut pas dire ça en français. Vous le savez bien. Prenez le code pénal de la France et voyez la façon dont la disposition est exprimée. Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime, délit, contravention. Point. Tout, ou presque, est dit en quelques mots. Hein. On pose un principe général, comme dans l'article 1372 du Code civil du Québec. L'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités. Et la définition est là, pure et simple. Le verbe vient souvent en tête. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Le Code Napoléon, article 2. Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages, article 900 du Code civil. Ces considérations donc ne nous simplifient pas la tâche, évidemment, lorsqu'on est confronté au texte de droit, et il faut observer la lettre, mais rendre dans l'esprit. Hein. Et en deux siècles, nous sommes passés, nous, de la traduction la plus littérale comme celle-ci. Regardez notre texte constitutionnel fondateur, 82 mots en anglais, 82 mots en français, dans l'article 3. Hein. Et on en est arrivé à cette expression très libre, je souligne, comme dans le paragraphe 9 de l'article 10 de la loi sur la sûreté du transport maritime. Vous avez 18 mots dans le paragraphe 9 et vous en avez 4 en français. Il y en a beaucoup d'exemples de ce genre-là. La fameuse co-rédaction qui a donné des résultats magnifiques pour l'une et l'autre langue, comme vous savez. Dernière considération qui nous amène à réfléchir sur l'opération ultime que doit exécuter le traducteur jurilinguiste sur son texte avant de le remettre, parce que, à moins d'être un génie, il est rare que l'on atteigne la perfection du premier trait de plume ou de clavier maintenant. D'où la nécessité pour un rédacteur de revoir son texte, ne serait-ce que pour corriger les coquilles, les scories les plus flagrantes, les fautes d'orthographe, les répétitions indues, c'est pas un jeu de mots juridique, mais ça pourrait l'être, les maladresses et les autres détails du genre. Donc, il faut remettre son ouvrage sur le métier. Pas nécessairement 20 fois, ni 17 fois comme faisait Flaubert dans ses différents manuscrits corrigés, mais plutôt comme Balzac peut-être, ou Mozart, essayer de composer l'œuvre en une fois d'une plume, d'un trait de plume. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, dans toute pratique professionnelle, le traducteur jurilinguiste ou le jurilinguiste traducteur devrait commencer, après avoir laissé reposer son texte quelques temps, quelques minutes, quelques heures, une nuit, on n'ose pas dire quelques jours, on est tous pressés, par s'assurer que les trois conditions ou les principes cardinaux de la lisibilité d'un texte pragmatique, ce qu'est un texte juridique, ce n'est pas un texte littéraire, donc à visée non esthétique, que ces conditions sont bien réunies, qu'ils soient clairs, qu'ils soient concis et simples, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas un doctorat en philosophie puisse comprendre à la première lecture le texte qu'il lit. Vous voyez ? Voilà. Donc, faute de temps, je m'en tiendrai à trois exemples parmi beaucoup d'autres que j'avais préparés. Phrase complexe, bon, qui peut être réécrite, c'est banal, on peut réécrire la phrase en quelques, cette longue phrase en 3-4 phrases, le cas d'une condition ou d'une exception, sauf si le demandeur est âgé de moins de 18 ans, le demandeur, s'il a à la fois réussi l'examen théorique et cumulé 12 mois de cours de conduite, peut solliciter un permis de conduire. 35 mots, la capacité de lecture, de compréhension de l'être humain moyen ne dépasse pas 23-25 mots. Au-delà, on se disperse un peu. Je parle de quelqu'un qui n'a pas la grande habitude que vous avez de manier les mots. 35 mots. Si on le réécrit sous forme de liste, évidemment, c'est plus simple. On arrive d'ailleurs à 31. On économise quelques mots en passant. C'est parfois une façon de faire plus simple. Une personne peut solliciter un permis de conduire si elle est âgée de plus de 18 ans, a réussi l'examen théorique, a suivi un cours de conduite de 12 mois. À la lecture, c'est plus facile. Nettement. Le dernier exemple, je terminerai là-dessus, le traitement d'une clause de contrat qui fait 150 mots. Clause banale que l'on rencontre partout, un contrat d'achat. La traduction littérale qui comprend 145 mots, elle est plus courte que l'original. Je pourrais parler pendant des heures de la concision. On peut, en traduction juridique, en rédaction des lois et de textes juridiques, faire plus court en français. Oui, on peut faire plus court qu'en anglais. C'est faisable. La preuve, c'est une mauvaise traduction. Elle a été révisée. Et voilà ce que donne ma révision, mais je passe sur les détails parce que c'est la cuisine interne. Et vous allez voir la version finale. Je suis arrivé à 135 mots. Je pourrais reprendre ce texte et le réduire encore, vous voyez. Mais en le retravaillant légèrement, je n'ai pas perdu beaucoup de temps à faire ça, on peut arriver à 135 mots, alors que l'anglais en compte 150. C'est faisable. Vous l'avez vu pour la loi, c'est la même chose pour le contrat. On pourrait continuer ainsi longtemps, et c'est le travail ingrat qui est le nôtre, évidemment. Donc, le savoir-faire, le jugement, la sagesse dictent la conduite à tenir, savoir quand il faut s'arrêter, de réviser, de réécrire, de retravailler un texte. C'est affaire de temps, de conscience professionnelle. Mais néanmoins, pour vous laisser sur une impression favorable, comme le pensait Ricoeur, le grand philosophe, le juste, n'est-ce pas, c'est lui qui a écrit ce magnifique ouvrage, il est toujours possible de dire la même chose autrement. Et c'est donc autour de ces 7 axes fondamentaux que pourrait s'articuler toute réflexion préalable sur la formation, le perfectionnement du traducteur jurilinguiste. Quoique les réponses à des questions de cette nature ne nous appartiennent qu'en partie, parce qu'elles nous sont imposées par les contraintes, la langue, l'économie, la politique, la société, la culture, bref, le contexte dans lequel nous vivons tous, selon que le contexte local sera unilingue, bilingue, multilingue, les contraintes et les risques qui découlent de ces choix, qui sont des stratégies, poseront un sérieux dilemme aux traducteurs. Et je vous remercie de votre patiente attention et vous souhaite une bonne continuation de ce colloque et de cette journée de jury linguistique. Se retrouver en famille, c'est toujours un plaisir. Je remercie infiniment les organisateurs de cet événement d'avoir pensé à me faire venir pour deviser sur la jury linguistique. Merci.